Voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé le film. Hein? Les images sont super. Donc on va faire un petit débat pour ceux qui veulent rester un petit moment avec deux personnes qui sont ici. Donc il y a Olivier Fernandez qui est président des apiculteurs de Midi-Pyrénées et Muriel Bourges qui est présidente de l'association Tournabeille qui est sur Tournefeuille. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions, c'est le moment.
Oui, bonjour, bonjour, j'espère que ce film vous a plu. Nous, donc là, on s'occupe tous les deux d'une association d'apiculteurs amateurs sur Tournefeuille depuis environ 4 ans. On est une quarantaine de membres. L'idée nous est venue parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de passionnés sur Tournefeuille et d'apiculture. Donc on s'est dit qu'on allait se regrouper, essentiellement dans le but de sensibiliser le grand public. Donc enfants, adultes, à l'apiculture et à la problématique qu'on connaît, nous aussi, apiculteurs, en France, voilà. Donc, on avait un rucher, puisque cet hiver, on a perdu toutes nos ruches, qui est derrière les jardins familiaux. Donc là, vivement le printemps pour qu'on puisse repeupler ce rucher, parce qu'on a quand même pas mal d'animations de prévues, donc... Voilà, on espère qu'on aura pas mal d'essaimages pour repeupler très vite ce rucher et en faire un rucher fort. Alors, on les a perdus pour différentes raisons. On a été pas mal, on a les colonies qui ont été affaiblies par les frelons asiatiques, qui sont très virulents le long du touche. Donc c'est vrai qu'à l'entrée de l'hiver, les colonies étaient déjà affaiblies. Et ensuite, bon, en hiver, un petit peu, enfin, il y a eu des gros coups de froid, des coups de chaud, pas mal d'humidité, et on a nourri cette année, malgré tout, on a fait tout ce qu'il fallait, mais à l'entrée du printemps, enfin, il y a quelques semaines, quand on a fait la visite, on s'est aperçu que les ruches étaient vides. Voilà. Donc, on ne perd pas espoir, et on espère repeupler tout ça très vite, et pour recommencer nos visites. Hein. Voilà. Quelque chose à rajouter? Vous avez des questions? Oui?
J'avais une question. Bonjour déjà.
Bonjour.
Je voulais savoir vis-à-vis de la communauté européenne, qui est sensibilisé au niveau de la communauté européenne par rapport aux pesticides associés à tout ce qu'on vient de voir passer à Pologne d'ailleurs. Et est-ce que la communauté européenne est en train de se réveiller pour vraiment prendre en considération la problématique associée aux abeilles à l'échelle du monde?
Alors bonjour, Olivier Fernandez. D'abord un petit mot sur le film, ce film de Marcus Simov qui présente de sublimes images sur l'apiculture. Il faudrait y apporter un petit bémol, c'est que l'apiculture qui est montrée dans ce film et l'agriculture sont une apiculture et une agriculture intensive et qui sont bien loin de ce qui est pratiqué en Europe, puisque ici en France, un apiculteur professionnel va avoir entre 300 et 600 ruches. Quand on voit l'Américain qui en a entre 10 et 15 000. Donc on n'est pas du tout sur la même taille de cheptel. Ensuite, quelques erreurs dans le film, notamment ils disent que les abeilles ne survivent plus sans antibiotiques, c'est faux. Effectivement, les antibiotiques sont donnés à outrance en Chine et aux États-Unis, mais en Europe, ils sont interdits. Donc on ne retrouve pas d'antibiotiques dans le miel, hormis dans le miel que vous achèterez en supermarché où il y a marqué non originaire de l'Union européenne. En ce qui concerne donc l'Union européenne, alors c'est un vaste sujet, je vais essayer d'être bref. Les autorisations de tous les pesticides se font maintenant au niveau communautaire, donc au niveau européen. Et après, il y a un second filtrage au niveau de chaque pays. Donc au niveau européen, l'agence qui s'occupe de ça, c'est l'EFSA. Et en France, c'est l'ANSES, qui est ce qui était avant l'AFSA. Donc les pesticides, quand les industriels produisent un pesticide, ils déposent un dossier pour demander l'autorisation et ils font eux-mêmes les tests. Et ces agences ne s'occupent que de vérifier les additions et les soustractions. C'est ce qui nous a amené à découvrir, par exemple, sur le gaucho, que les chiffres étaient trafiqués, qu'en fait les virgules avaient été déplacées malencontreusement, bien sûr, et que donc on arrivait à des chiffres tout à fait convenables. Alors au niveau européen, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, par rapport à cette agence, il y a un an et demi, José Bové, qui était en rendez-vous avec l'agence, en faisant une recherche, s'est rendu compte que la présidente, Madame Bonatti, était en fait aussi membre de l'ISLI. Et l'ISLI est l'association de lobbying au Parlement européen de Monsanto, Bayer, BASF et Syngenta. Donc après cette petite sortie dans la presse de José Bové, eh bien la présidente a dû démissionner pour conflit d'intérêts. Et la Commission européenne a créé une commission d'enquête sur cette agence pour les autorisations des pesticides. La commission a révélé que les tests n'étaient plus du tout adaptés aux pesticides qui étaient aujourd'hui sur le marché et qu'il y avait eu effectivement conflit d'intérêts et donc qu'il fallait réanalyser les pesticides en vente sur le sol européen. Pour l'instant, rien n'a été suspendu, il continue. Et par contre, la Commission a commandé des études scientifiques sur ces pesticides qui sont arrivées en janvier, d'autres vont arriver la semaine prochaine. Et ces études ont montré effectivement que les pesticides, eh bien, tuaient directement les abeilles. On parle du gaucho, du régent et du cruiser. Et donc la Commission a proposé d'interdire les pesticides pendant 2 ans sur l'ensemble des territoires de l'Union européenne, mais comme ça se fait à chaque fois sur les interdictions comme en France, ces interdictions ne concernent que quelques cultures, le tournesol et le maïs. Et comme on est sur des produits rémanents qui sont présents pendant au moins 10 ans dans la terre, eh bien les cultures qui poussent l'année d'après vont trouver ces pesticides. Alors il y a eu un vote la semaine dernière, vendredi, à la Commission européenne pour cette interdiction. Et malheureusement, il n'y a pas eu de consensus qui a été trouvé. Donc, on ne peut pas vous annoncer pendant cette semaine sans pesticides cette victoire qu'on espérait, parce que l'Allemagne et l'Angleterre se sont opposés à cette décision qui sera remise à l'ordre du jour une dernière fois dans 3 semaines. Et là, on verra si la décision est prise. Alors, juste un dernier mot, pourquoi l'Allemagne et l'Angleterre se sont opposés? Eh bien, l'Allemagne a le siège social de Bayer, le producteur du gaucho, et l'entreprise allemande BASF qui fait le régent a son siège social à Londres. Voilà.
Je peux voir le nom de la fondation Bayer dans le générique
du Non, c'est l'État de Bayern en Allemagne. Non, Bayer n'a pas financé le film, je vous rassure. Mais bien vu, c'est la première fois que je l'entends. Alors, qu'en est-il des abeilles élevées en France? Alors, en France, nous avons Apis mellifera mellifera, l'abeille noire, qui est présente sur le territoire, naturellement, avec laquelle on travaille essentiellement. Et après, il y a effectivement des races qui ont été importées, qui sont utilisées par les apiculteurs pour la production de miel ou des fois de propolis ou de pollen, puisqu'il y en a qui produisent un peu plus. Puis les caractères, il y en a qui sont plus douces que d'autres, donc comme la Buckfast. Donc il y a maintenant un grand mélange des races partout dans le monde. Et ce mélange qui a été fait il y a plus d'une vingtaine d'années a malheureusement amené des maladies endémique souvent à ces différentes espèces d'abeilles.
J'ai été assez impressionné d'une séquence du film montrant en Chine qu'on se met à pratiquer la pollinisation à la main avec des êtres humains, les gens qui travaillent à ça. Est-ce que ça veut dire que dans ces régions, la réintroduction d'abeilles est définitivement impossible?
Alors, la Chine reste le premier producteur de miel au monde. Ça peut paraître bizarre. Alors, 2 explications à ça. Il faut savoir que la disparition des abeilles en Chine ne concerne qu'une province du nord, celle du Sichuan, qu'on a vu où ils ont les arbres fruitiers. Et ensuite, la Chine est aussi le champion du miel frelaté. Donc, des sureaux de glucose qui est ajouté pour épaissir le miel et le rallonger. Alors, la Chine a énormément de ruches, a les moyens dans la démocratie qu'on connaît de faire implanter des ruches. Mais malheureusement, c'est vrai que dans cette région, comme dans certaines régions où on traite trop, eh bien, les abeilles n'arrivent plus à survivre. Et la réimplantation de l'abeille serait peut-être possible, mais il faudrait attendre au moins 5 ou 10 ans. Parce que ces pesticides sont insolubles dans l'eau, donc il faut qu'ils passent par les nappes phréatiques et les stations d'épuration avant d'être définitivement enlevés. Et ils ont une durée de vie de 6 à 16 ans. Ils restent dans la terre et donc toutes les plantes qui continuent à pousser repompent ces molécules qui sont redistribuées dans le pollen et le nectar. Donc pour l'instant, réintroduire de l'abeille dans cette région, semble très difficile. D'ailleurs, on se demande beaucoup comment ils arrivent à tenir en Californie quand on voit dans le film tout ce qu'ils épandent. Mais la Californie, il y a 3 ans, a connu quand même 80% de mortalité des ruches. Donc sur la saison des amandiers, c'est à peu près 3 semaines. En 3 semaines, perdre 80% du cheptel, c'est ce qui a bougé aux États-Unis le Congrès, qui a demandé une enquête sur les mortalités d'abeilles. Et ils ont fait des études en montrant que même si les pesticides ne tuaient pas directement les abeilles, pour les pesticides un peu moins inoffensifs, eh bien ils faisaient des effets de synergie avec des maladies de l'abeille, et ils abaissaient le système immunitaire de l'abeille qui est quasiment inexistant, et développaient les maladies, notamment la nosema qui attaque l'intestin de l'abeille. Et ça, ce sont les fongicides, voilà, qui tuent les champignons, puis aussi vous avez les herbicides, le Roundup, qui est largement utilisé ici sur la communauté urbaine du Grand Toulouse, contre lequel on se bat justement avec Tournabeille, pour demander l'interdiction. Et bien c'est, le Roundup, qui est un désherbant, a aussi des effets sur le système digestif de l'abeille et des autres insectes.
La notion de l'arche de Noé avec l'île déserte et la colonisation là-bas, mythe ou réalité?
Plaisir du réalisateur. c'est sa famille qui habite dans l'île et qui est éleveur. Là aussi, on dit qu'aux États-Unis, par exemple, il n'y avait pas d'abeilles avant que les Européens soient arrivés. C'est faux. Des espèces d'abeilles, vous pouvez le voir au jardin familial, il y a des hôtels à abeilles solitaires. Et puis, il y avait un petit film d'accord avant. Donc, il y a 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, là, qui sont, pour les autres, essentiellement solitaires. Et aux États-Unis, il y a une espèce d'abeille endémique, qui est l'abeille des Mayas, qui était la divinité Maya, qui s'appelle la Mélipone, et qui est l'abeille Sandar. Donc il y avait déjà de la pollinisation présente. Et ensuite, est-ce que c'est l'arche de Noé, l'île? C'est vrai que c'est un endroit protégé comme l'île d'Ouessant en France, où il n'y a pas de maladies pour l'instant importantes qui sont arrivées en Australie. Et donc les abeilles ont un taux de mortalité bien moindre que ce qu'on va connaître ailleurs. L'Australie utilise peu de pesticides, et donc pour l'instant, c'est vrai que c'est un sanctuaire où on peut multiplier les abeilles, et l'Australie a été un des fournisseurs de ruches pour la Californie quand ils ont perdu les 80% de ruches. Mais après, ils n'ont pas réussi à suivre la seconde année. La seconde année, ça a été la Nouvelle-Zélande qui a fourni des ruches aux États-Unis, et aujourd'hui, il n'y a plus de fournisseurs des États-Unis, et ils essaient d'en importer de partout et de multiplier les leurs, puisqu'il n'y a pas assez de production.
Lorsque vous parlez de nosema, c'est une bactérie?
Alors, nosema, c'est un petit parasite qui se met dans l'intestin de l'abeille. Après, il y a aussi des bactéries. En France, on a à peu près 18 maladies et parasites de l'abeille qui arrivent à vivre à peu près avec l'abeille et à épargner leur hôte. Mais avec les insecticides, les abeilles souvent meurent de ces maladies. Donc on trouve la maladie comme cause de mortalité visuelle, et il faut faire des analyses en laboratoire très coûteuses pour voir que certes elles sont mortes de la maladie, mais il y avait quelque chose avant. C'est comme aujourd'hui, vous mourrez d'un cancer, mais le cancer, il n'est pas arrivé du jour au lendemain.
Parce qu'aux États-Unis, ce qui se passe, ils ont trouvé un autre ravageur des ruches. C'est pour ça que je posais le nom, j'ai oublié son nom.
La mouche.
C'est un diptère, oui.
Oui, ouais. Alors ça c'est...
De se développer, de remonter partout aux États-Unis.
Oui, oui. Ouais. Alors après, il y a un petit insecte qui attaque le miel dans les rayons, le coléoptère. Je ne sais pas si c'est à ça que vous pensez.
Non, c'est ça.
Parce qu'il y a la mouche et le coléoptère. En ce qui concerne la mouche qui pond un œuf sur le dos des abeilles, c'est sorti il y a un an comme étant un des nouveaux ravageurs de l'abeille aux États-Unis, et c'est une campagne d'intoxication de l'agrochimie, puisqu'il a fallu que ce soit l'INRA d'Avignon qui sorte de ses archives des papiers de 1901 pour montrer qu'on l'avait déjà identifié en France et que c'est un parasite connu de l'abeille. Voilà. Alors le frelon asiatique est une espèce, celle qu'on, il y a plusieurs frelons asiatiques. On a une qui est une des moins agressives, donc il nous attend encore des catastrophes. C'est, il a été importé par des cargaisons de poteries en France, à Bordeaux. On l'a identifié en 2004, mais il est arrivé vraisemblablement en 2003. Ici, il n'a pas de prédateur, donc il se multiplie à foison. Il a besoin d'eau à moins de 500 mètres, donc il a remonté la Garonne et tous ses affluents. Mais comme nous avons maintenant des piscines partout, il n'a plus de mal à faire le maillage de la France. Et il est à peu près sur les trois quarts du territoire français. On le trouve dans d'autres pays européens grâce au transport de camions qui l'ont amené par exemple au Portugal, ou en Italie, ou en Belgique. Et le frelon asiatique fait de gros dégâts sur les ruches, surtout sur les petits ruchers. Donc les petits ruchers, c'est l'essentiel des ruchers dans le monde, hein, c'est des apiculteurs amateurs. 90% en France, ce sont des apiculteurs amateurs. Et donc les frelons, eh bien, vont manger les, enfin, vont prendre les abeilles pour les donner à manger à leurs larves. Et il y a une prédation continue à partir du mois de juin-juillet jusqu'à à la fin de l'automne devant les ruches. Et c'est quelque chose qui devient inquiétant. Qui attaque psychologiquement l'apiculteur, parce que quand vous voyez vos abeilles se faire manger une par une à longueur de journée, et qu'il y a 10 frelons devant l'entrée, que vous pouvez rien faire, et qu'elles osent rien faire, ou quand elles attaquent, elles savent pas comment faire, et elles se font tuer de suite, mais c'est quelque chose qui touche énormément le psychologique chez l'apiculteur, plus que les, peut-être les pesticides, parce que les pesticides, il y a deux formes d'intoxication, soit c'est un effondrement brutal devant la ruche, et là on le voit, sinon elle meurt en plein champ, donc on voit pas les mortalités, on voit la ruche qui diminue, mais il n'y a rien qui se passe dans la ruche.
Pourquoi elle meurt devant la ruche par rapport aux champs? Attendez, je me suis exprimé.
Oui, j'ai compris la question quand même.
J'étais en train d'indiquer qu'il y avait pratiquement toute cette tête qui pouvait mourir dans le cas où on balance des pesticides, des fongicides. Mais pourquoi c'est devant la ruche? Il y avait deux exemples, elle meurt en plein champ ou dans la ruche?
Alors, non. En fait, on a eu le problème il y a quelques années sur les jardins familiaux où on avait une ruche. Il y avait à 200 mètres un champ de colza et l'agriculteur a traité à floraison, ce qui est strictement interdit. Donc nous, ce qui s'est passé en fait, c'est que nos abeilles sont allées butiner. Se sont enduites du produit chimique, sont revenues à l'entrée de la ruche et comme elles communiquent, on a vu dans le film, entre elles avec les phéromones, elles n'ont pas été reconnues par leur père, et elles ont été chassées, tuées. Donc en fait, c'est un cycle incessant, les autres butineuses sont parties butiner, et se faisaient tuer en rentrant, voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on retrouve un paquet d'abeilles à l'entrée de la ruche, voilà. Et, enfin...
Après, ce qui est en plein champ, c'est que ces pesticides, tous les pesticides ont des conséquences sur les abeilles. D'ailleurs, on parle pesticides, on devrait parler phytosanitaire, puisque c'est le nouveau nom. C'est de la phytopharmacie, on est là pour soigner les plantes. J'y crois. Ces pesticides qui existent aujourd'hui, on parle d'une nouvelle variété qu'on appelle les néonicotinoïdes. Et ces pesticides attaquent sur les connexions nerveuses des insectes et attaquent le cerveau des insectes. Et quand les abeilles sont touchées par ces insecticides, c'est un problème après pour l'orientation, ça touche l'orientation des insectes, et donc elles ne retrouvent pas la ruche et vont mourir en plein champ. Et là, c'est la grosse difficulté pour nous pour prouver qu'il y a eu intoxication. La seule possibilité, c'est qu'elles meurent devant la ruche, que ce soit leur sœur qui les tue. Parce que si elles meurent en plein champ, aller trouver des abeilles pour les envoyer à l'analyse. Quand il faut 500 abeilles par analyse et qu'il en faut 3 paquets, ça fait 1500 abeilles. Les métabolites de chaque molécule se dégradent en fonction des heures. Donc ça veut dire qu'il faut trouver 1500 abeilles en une heure ou deux pour l'envoyer au laboratoire et avoir l'analyse dans les 48 heures maximum, sinon après c'est trop tard. Ah non, 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 ils sont autorisés. Ils sont autorisés, et c'est sur ces pesticides qu'on se bat, c'est le gaucho, le régent, le cruiser, le cheyenne, le nouveau qui vient d'être autorisé par le gouvernement actuel, puisque que ce soit à gauche ou droite, malheureusement, on est sur des autorisations assez faciles pour l'agrochimie. Le nouveau ministre de l'Agriculture avait fait un premier pas intéressant, c'est-à-dire que par rapport à l'ancien ministre de l'Agriculture, c'était pas dur. Il a interdit le cruiser sur le colza dès sa nomination, mais il a laissé autoriser sur le maïs. Donc ça, c'était pas bon. Et puis ils nous en ont autorisé de nouveau, le Santa et le Cheyenne, qui sont de la même famille des néonicotinoïdes. Alors ce qui arrive souvent, et ça c'est de la communication, c'est que par exemple on vous dit « le gaucho est interdit en France ». Non, le gaucho est interdit sur le tournesol et sur le maïs, mais il est autorisé sur le blé et la betterave. Et d'ailleurs, les producteurs de ces produits conseillent aux agriculteurs en disant bon, « c'est pas grave, si tu n'en as pas sur ton tournesol, tu sèmes du blé cette année, et l'année prochaine, avec ce qui reste dans la terre, ton tournesol sera protégé. » Alors, les apiculteurs en étaient aux alentours de 80 000 en 1985. On est passé il y a 5 ans à 60 000, 65. Et aujourd'hui, d'après la dernière étude, qui est en partie fausse parce qu'on avait des problèmes pour compter les apiculteurs, il y en aurait 40 000. Donc on va dire qu'on est entre 40 et... et 55 000, peut-être 50 000 apiculteurs, donc c'est quand même en chute libre. On produisait 38 000 tonnes en 1985, on en produit plus que 16 000 tonnes cette année. On en consomme 40 000 tonnes, donc le reste c'est de l'importation. Sur les mortalités, on est passé sur des mortalités annuelles de 2 à 3% en 1985 au niveau national, et aujourd'hui on est entre 35 et 40%. Alors, dans ces mortalités, c'est une moyenne nationale, il y a quand même des leaders, hein, et puis il faut être fier, Midi-Pyrénées, nous sommes premiers avec la Bosse, nous avons 60% de mortalité annuelle des ruches.
Vous n'avez pas les chiffres pour le Vaucluse?
Pour
le Vaucluse.
Et
vous savez pourquoi c'est plus ici?
Parce qu'on est dans des zones de culture. Les mortalités sont plus importantes autour des zones de culture, donc la Haute-Garonne, avec le Gers, on est dans les champions. Et puis le Tarn-et-Garonne, parce que le Tarn-et-Garonne, avec les pommes et les kiwis que vous mangez chaque jour, je peux vous assurer que ça y va. Sur les pommes en Tarn-et-Garonne, on est entre 27 et 35 traitements sur la pomme. Du stade de la fleur jusqu'au moment où vous allez la manger. Donc là, les abeilles qu'on y pose, on en ramène la moitié. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur? Ben vous pouvez rencontrer des associations qui se bougent, comme ici à Tournefeuille, Tourneabeille ou les jardins familiaux, leur proposer un coup de main pour développer les activités de sensibilisation au niveau du public. Après, ben vous pouvez devenir apiculteur. Au syndicat à Saint-Martin-du-Touche, on fait des cours d'apiculture. Donc vous pouvez venir prendre des cours et puis après... On le dit souvent, mais il ne faut pas l'oublier, on est consommateur-acteur. Et donc, c'est sur la consommation que vous allez pouvoir agir en privilégiant des produits d'agriculture biologique, d'apiculture aussi biologique, et puis en privilégiant les circuits courts, les AMAP. Ici, à Tournefeuille, il y a plusieurs AMAP qui existent. Il y en a même à Utopia, je crois. Et donc, en privilégiant une agriculture, des aliments qui ne participent pas à cette agriculture grande consommatrice de pesticides et subventionnée par la PAC, et mais là on peut agir énormément.
J'avais une autre solution quand même, d'abord des citoyens avant d'être des consommateurs, et c'est quand même plus important de se considérer citoyen, comme à mon avis bien
Bien sûr.
Ça a permis de répondre à savoir de la consommation, mais je pense qu'on peut faire des choix qui ne sont pas des bons choix du point de vue de ce qu'on est en tant que consommateur, mais de faire des choix quand on est des individus aussi forts. C'est aussi une proposition.
Je suis entièrement d'accord. Merci.
Alors, je voudrais recommander à ceux qui veulent faire quelque chose d'adhérer à Génération Future, l'association qui a monté Veillerette il y a une dizaine d'années, ouais, et qui est à l'initiative de la semaine sans presse ici, qui se bat sur les plans juridiques partout où c'est possible, pour, et qui a, se donne les moyens de faire des analyses ou autres pour lutter contre les lobbies qui pestifèrent.
Ah non.
GF.org, vous trouverez facilement le site, et je vous recommande d'y adhérer si vous avez 20 ou 30 euros. Ils sont pas, on n'est pas très nombreux, mais on a besoin d'argent.
Comme partout. Mais d'ailleurs, nous, on a ici au niveau du syndicat à Toulouse, on a travaillé avec eux cet été sur la question des épandages aériens de pesticides, puisque vous avez certainement entendu parler. Ce film a été sorti en avant-première mondiale par Utopia au mois d'août dernier, où on avait refusé 400 personnes la première fois et 200 la seconde fois, où on avait profité, grâce au réalisateur, à son accord, du film pour amener le débat auprès de la population et informer les gens sur ces épandages aériens de pesticides qui souvent se faisaient à moins de 50 mètres des écoles et des habitations sans que les gens ne soient au courant et avec des produits qui étaient pour la moitié cancérigènes et après pour d'autres produits dont un qui était utilisé dans les Landes avec marqué sur la notice « Effet néfaste pour l'enfant à la femme enceinte ». Et ceci dans les 10 heures après l'épandage en se promenant autour de la parcelle. Donc juste par inhalation, parce qu'il ne faut pas oublier que les pesticides, les phytosanitaires ont deux actions, par contact, si vous en prenez sur la peau, comme le Roundup qui va casser votre division cellulaire et entraîner le début du cancer, mais ça met 20 ans, et après par inhalation, en le respirant, et c'est la même chose pour les abeilles que pour les hommes. Et pour rajouter un petit point sur ça, il faut savoir que nous, les apiculteurs, quand on a une intoxication de nos ruches, et que l'on a les services vétérinaires qui viennent faire un constat, les symptômes qui sont demandés à être identifiés, ce sont tremblement des abeilles, Parkinson, et perte de mémoire, Alzheimer. C'est exactement ce qu'on met sur les feuilles pour diagnostiquer une intoxication massive aux pesticides, Alzheimer et Parkinson. Oui, Olivier.
Il y a des pétitions qui circulent sur Internet, notamment pour s'opposer à faire au vote européen qui a eu lieu. Est-ce qu'elles servent à quelque chose ou est-ce qu'il faut se tourner vers d'autres moyens?
Alors, les pétitions, il y en a beaucoup, c'est à la mode, c'est comme les installations de ruches en ville qui sont faites souvent maintenant par des entreprises qui ne sont pas là pour faire de la philanthropie. Alors, vous avez une pétition très connue, Polynis, qui circule, que l'on ne connaît pas, où ils refusent de nous rencontrer, donc on ne la conseille pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Après, comme pétition sérieuse, vous avez Avaz, qui est très connue. Et enfin, pour ce qui concerne les OGM, il y a une pétition qui a été lancée par plusieurs ONG, dont Génération Future, de François Veillerette, que vous trouvez sur le site ogm-abeille.org. Donc là, ça c'est une pétition qui est gérée par 17 organisations nationales, dont les syndicats d'apiculture, et qui a recueilli 300 000 signatures pour l'instant, qui a été déposée au Parlement européen, et la commission a auditionné le président national de l'UNAF, Olivier Belval, au mois de janvier sur cette pétition. Et c'est ce qui a engendré le débat qu'il y a actuellement sur les pesticides, en plus des révélations qui avaient été faites sur l'agence qui autorise ces pesticides. Donc, ça a quand même un impact, ça arrive à faire avancer les choses.
Il se passe quoi dans 50 ans s'il n'y a rien de bouge ?
Que vous répondez, Prenne ? Jean-Paul.
Près des maisons, parce que nous on habite en campagne et c'est vrai qu'on a quand même un
Alors, les modes de traitement des cultures, il y en a deux. Soit c'est des enrobages de graines avant le semis. Donc on colle l'insecticide autour de la graine et la graine va pomper ses molécules. Soit c'est un épandage par tracteur avec des rampes, soit un épandage aérien par hélicoptère. Alors en ce qui concerne les épandages aériens par hélicoptère, ces épandages sont normalement interdits depuis 2009, puisqu'il y a une directive européenne qui s'applique sur l'ensemble des pays de l'Union européenne et qui interdit ces épandages aériens pour la santé humaine. Mais notre ancien ministre de l'Agriculture, M. Bruno Le Maire, a signé un arrêté le 31 mai 2011 qui permet de passer outre cette interdiction en donnant des dérogations très facilitées. Et il a envoyé une notice qui avait été révélée il y a un an et demi par Le Monde à tous les préfets pour leur expliquer comment délivrer une autorisation plus facile pour ces épandages aériens. Donc l'an dernier, moi il y a 2 ans, j'ai subi des pertes à cause d'un épandage aérien qui a eu lieu à Pibrac. Et à partir de là, je me suis penché sur la question, puisqu'on savait qu'il y en avait pas mal en Vendée, mais ici on n'était pas trop penché sur ça. On a eu beaucoup de mal à trouver l'information. On a eu beaucoup de barrières des services de l'État et de la préfecture. Et on s'est rendu compte que donc il y avait des demandes dans la région Midi-Pyrénées pour 20 000 hectares l'été dernier. Donc il y avait 20 000 hectares qui étaient demandés pour être épandus avec toutes ces bonnes molécules qui polluent l'eau, qui attaquent la santé humaine et encore plus celle des enfants et des femmes. Et puis en plus, ben, les abeilles. Donc par rapport à ça, on a fait beaucoup de réunions avec les services de la préfecture, où ils nous ont menés gentiment en bateau, et où ils nous ont dit, bah, écoutez, non, on les autorise, et puis de toute façon, si vous n'êtes pas content, vous aurez qu'à nous attaquer en justice, mais ça va vous coûter de l'argent, donc vous ne le ferez pas. Donc on leur a dit que, bon, on n'était pas content, mais ils ont mis quand même un cadre un peu plus restrictif que l'arrêté national. Et il y a eu, au mois de juillet, les premiers épandages dans le Gers, qui ont concerné 150 hectares, et les services de la préfecture du Gers n'ont prévenu aucun syndicat d'apiculture. Ils l'ont fait en catimini. Des apiculteurs ont appelé pour savoir à la préfecture s'il y avait eu des épandages. On leur a dit non, c'est rien, c'est du repérage, c'est du bio, il n'y a pas eu d'épandage. J'ai rappelé la préfecture du Gers en leur disant, écoutez, excusez-nous, mais on a des témoignages d'épandage aérien, est-ce qu'il y en a eu? Et donc là, la préfecture a dit, oui, excusez-nous, on n'a pas eu le temps de vous prévenir, mais on a fait des épandages. Donc là, on leur a dit, c'est arrivé une fois, vous avez fait 150 hectares sans nous prévenir, ils devaient nous prévenir 3 jours avant, ça n'arrivera pas 2 fois. Et là, même si ça nous coûte de l'argent, on va vous attaquer en justice. Et une semaine après, dans la Haute-Garonne, on a été informé d'épandage aérien la veille pour le lendemain. Donc, déjà, il y a eu la violation de l'information 3 jours à l'avance. On devait nous donner les villes et les parcelles concernées. Les routes devaient être fermées à 50 mètres autour et il devait y avoir aucune maison à 50 mètres. Or, il y en avait à 10 et à 20 mètres autour des parcelles traitées. Et rien de cela a été fait. Donc, on ne voulait pas nous donner l'endroit pour pas qu'on puisse y faire quoi que ce soit. On a été menacé de dépôt de plainte si jamais on se rendait sur place. Et puis, on a travaillé avec le collectif anti-OGM, avec lequel on fera un débat à la Biocop de Colomiers jeudi soir, si ça vous intéresse, sur les OGM et les abeilles. Et on est allé, avec notre bâton de pèlerin, eh bien, cartographier les communes de la Haute-Garonne, avec les parcelles susceptibles d'avoir du maïs, et puis avec quelques autres informations dont on ne divulguera pas le contenu, on a réussi à trouver les parcelles. On s'est rendu sur place à plusieurs équipes, avec la presse, avec France 2, avec France Info, avec France 3, et puis on a attendu sagement. On nous avait dit que les épandages seraient à 11h. Bon, comme on s'est dit, peut-être ils ont un petit peu de retard ou d'avance, on va arriver à 8h, et à 8h20... ils ont fait les épandages qui ont duré 7 minutes pour 40 hectares. Et après ces 7 minutes, eh bien, on est sorti de là où nous étions. On a convoqué les services régionaux du ministère de l'Agriculture, gendarmerie, photographie, attestation, documents, tout ça. Et puis on a demandé un rendez-vous au préfet d'urgence pour demander la suspension totale de ces épandages pour l'année. On avait déjà demandé un rendez-vous depuis le mois de mars où ils nous avaient rien répondu, ni à nous, ni au député Gérard Bapt qui nous avait appuyé. Et là, comme par miracle, au bout d'une heure, on nous a rappelé en nous disant qu'il n'y avait pas de problème, on venait quand on voulait, le lendemain. Voilà. Donc le lendemain, nous sommes partis à la préfecture. Mais avant d'aller à la préfecture, comme il y avait des épandages prévus, la veille c'était à Sainte-Livrade, à la forêt de Boucone, et le lendemain ils étaient prévus à Carbonne. Alors la veille déjà, sur l'arrêté départemental, on avait relevé en 7 minutes 9 infractions. C'est, il faut le faire quand même, hein. Ils font 7 minutes d'épandage, il y a eu 9 infractions à l'arrêté préfectoral. Donc le lendemain, on s'est rendu à Carbonne avec Canal+ et TF1. On change, hein, on fait participer tout le monde. Et puis là, ce qui était embêtant, c'est que ce qu'on avait localisé comme parcelle, la parcelle était au bord de l'autoroute. Donc ils devaient fermer l'autoroute pendant au moins 6 heures à Carbonne s'ils voulaient faire les épandages. Ce qui semblait peu probable. Et donc là, sur place, ce coup-ci, ils nous ont vus. Ils avaient l'hélicoptère et ils n'ont pas fait décoller l'hélicoptère. Tant mieux pour eux, parce qu'en plus, le vent était au-dessus de 20 km/h et là, c'est interdit de faire tout traitement, même en tracteur. Et donc là, c'était encore un point de plus. Ils allaient faire 10, ils allaient battre la veille. Et avant de partir, on s'est dit, on va quand même passer à la mairie de Carbonne, puisque les citoyens que vous êtes, le préfet nous a expliqué que mais tout le monde est informé, parce que chaque citoyen passe à la mairie tous les matins, regardez si sa maison va être concernée par des épandages aériens. Donc j'espère que vous l'avez fait cet été, de passer tous les 3 jours à la mairie pour voir si vous allez être concerné par un épandage aérien, puisqu'il faut fermer les piscines si vous avez une piscine, ne pas mettre le linge dehors, fermer les fenêtres, etc. Pendant 6 heures, bien sûr. Et donc la mairie de Carbonne avait reçu l'arrêté seulement 1 jour et demi avant, au lieu de 3 jours. Et donc on est reparti pour aller à la préfecture, et puis avant de partir, on s'est dit avec un ami, attends, on va faire demi-tour. On est revenu à la mairie, on est revenu voir le maire, il dit, excusez-nous, vous n'avez pas été prévenu dans les temps, donc? Non. Et je lui dis, est-ce que vous ne pourriez pas nous faire une attestation comme quoi le préfet ne vous a pas prévenu dans les temps? Donc il y a eu une réunion avec les adjoints du maire de Carbonne, et au bout d'une demi-heure, ils sont sortis avec une feuille en 3 exemplaires, attestant que la mairie de Carbonne n'avait pas été prévenue comme l'article 11 le prévoyait, par monsieur le préfet. Nous sommes arrivés en réunion, juste à l'heure, où nous avons dit tous les points que nous avions relevés, donc les 9 infractions la veille. La sous-préfète, madame Souliman, nous a dit « Oui, bon, il ne faut pas exagérer, il y a eu des erreurs, mais chacun fait des erreurs, c'est bon, pour les prochains, ils seront briefés, et il n'y aura rien. » On dit « Non, nous on veut que ça s'arrête. » Non mais attendez, c'est arrivé une fois, tout le monde peut faire une erreur. Bon, et sur les 9 points qu'on avançait, la sous-préfète ne voulait en retenir que 2. Donc ça ne nous semblait pas énormément, on dit mais attendez, les communes n'ont pas été prévenues. Alors là, il se tourne vers son adjoint, monsieur, est-ce que les communes ont été prévenues? Oui, et dans les temps. Et donc je dis, ben, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Alors il m'a dit, mais monsieur Fernandez, il faut arrêter de mentir maintenant, hein, il faut apporter des preuves à tout ce que vous avancez, et là je pense que vous n'en avez pas. Et puis je lui dis, écoutez, on va terminer la réunion, mais je vais vous distribuer une feuille de la part du maire de Carbonne, que je vais vous laisser, puisqu'on en a plusieurs exemplaires. Et là, je peux vous assurer qu'il n'y avait pas une mouche volée dans le bureau de la sous-préfète. Ils sont devenus tout rouges. Et là, on leur a dit, on peut l'inscrire comme 3e point. Donc ça a été inscrit comme 3e point. Et la semaine d'après, nous avons été convoqués par la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, qui nous a demandé de ne plus communiquer à la presse parce que la population ne devait pas être au courant de ce qui se faisait dans les champs pour ne pas affoler les consommateurs, que ça faisait 13 ans que ça se faisait en Haute-Garonne et que jusqu'à l'arrivée de M. Fernandez, ils n'avaient jamais eu de problème, et que donc ils nous demandaient d'arrêter. Donc ben, suite à ça, ben, on a arrêté, c'est vrai. Hein, c'est France Nature Environnement et la Confédération Paysanne qui ont pris le relais avec la presse, et on a communiqué, et 3 jours après, eh bien, on a déposé un REP, un recours pour excès de pouvoir, pour attaquer le préfet de région. Et on a attaqué les sociétés et l'agriculteur qui ont fait les épandages le premier jour. Voilà. Et aujourd'hui, on attend le procès. Depuis, la sous-préfète a été limogée de Toulouse. Alors, pas que pour ces raisons, mais c'est des raisons qui ont joué dans son dossier. Elle est allée rendre visite à nos amis bretons. Donc, on leur souhaite du plaisir. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que la plainte concernant le tribunal administratif, le préfet, quand on a appelé le tribunal, elle a été perdue. Donc c'est des choses qui arrivent sérieusement pour de vrai au tribunal administratif, ça peut leur arriver. Et donc ils nous ont dit, vous n'en auriez pas un double pour nous l'envoyer ? Si, si, si. Donc on leur a renvoyé un double de la plainte, et maintenant on attend le procès. Un des deux procès devait avoir lieu il y a 3 semaines, et pour l'instant, on attend la convocation qui peut arriver d'un jour à l'autre, ou peut-être dans un an, on ne sait pas. Mais voilà, on est face à 2 procès, le syndicat apiculteur Midi-Pyrénées.
Ouais. De la mise à culture, donc elle devrait apparaître, on devrait savoir bien en amont.
Alors, les dates de... on a participé avec des gens de Tournabeille au mois de mars à la consultation publique qui avait lieu, puisqu'il y avait une consultation publique pour demander l'avis de la population, savoir si on est d'accord ou pas de ces épandages. Donc il a fallu trouver la consultation. Une fois qu'on l'a trouvée, mais c'était dans une salle minable à la préfecture. Et puis on s'est dit, bon, ben on va venir à plusieurs y participer. Quand on est revenu, 3 jours après, eh bien, c'était dans le poste de commissariat. Ils avaient mis des barrières et il y avait 2,5 carrés de CRS pour la consultation publique. Sur cette consultation, mais c'est une des pièces du dossier, la consultation doit être ouverte par M. le préfet, datée et signée. Elle n'était pas datée et signée. Donc déjà, il y a un vice de procédure qui a commencé dès le début de cette campagne. Et ensuite, les cartes. On avait effectivement les communes, même si, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas les communes. Ben pourquoi ? Parce que sur 3 communes, ils nous ont menti. Ils n'ont pas mis les bonnes. Ils se sont trompés de 600 mètres. Hein. C'est bon. Donc, on avait quand même les communes. Et après, les cartes, c'était des photocopies A5, en noir, d'autres photocopies. Et quand on a fait la première réunion avec les services de la préfecture, ils étaient incapables de nous dire précisément ce qu'il allait y avoir comme épandage. Eux-mêmes, et ils ont dit, on va leur redemander des nouvelles cartes. Et donc, on a eu des nouvelles cartes, mais on avait les épandages par commune, et on n'avait pas accès à la parcelle. Ça, c'est les services de la préfecture qui l'avaient, et qui ont refusé de nous le donner, alors qu'ils sont obligés. Et c'est pour ça qu'on attend vivement le procès. On va peut-être le perdre, parce qu'ils ont mis tous leurs services juridiques depuis le mois d'été à bosser sur ce dossier. Mais là, il y a quand même un vice de procédure et de respect des règles juridiques.
Et vos avocats à vous ?
Eh bien, c'est moi. Je suis juriste, étudiant en droit public, et je vais faire un master 2, je l'espère, en droit public de la santé. Et puis sinon, après, on travaille quand même de concert avec France Nature Environnement. Donc on a tous les cabinets juridiques de France Nature Environnement qui travaillent. Et maintenant, on a l'Union Nationale d'Apiculture, l'UNAF, au niveau français, qui nous donne aussi des conseils sur la procédure. Mais bon, là, on attend la plaidoirie.
Est-ce qu'il y a des rendez-vous pour une mobilisation citoyenne sur ces procès ?
Ah oui, quand il va y avoir le procès, vous inquiétez pas. On donnera rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent devant le tribunal administratif et devant le tribunal correctionnel pour la procédure, pour remarquer le coup, que ce soit une victoire ou une défaite. Pour nous, la victoire, elle y est déjà. Il y avait 20 000 hectares de prévus, ils en ont fait 300. Donc c'est une victoire totale qu'on a réussi à faire, tant pour la santé des habitants, qui n'étaient jamais au courant, que pour les abeilles. Et donc là, on est très contents. Après, le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, vous l'avez peut-être vu hier, a envoyé spécial sur France 2 à 14h, sont en train de modifier cet arrêté préfectoral d'épandage. Ils avaient parlé d'une interdiction lors de la conférence environnementale au mois de septembre. Maintenant, on parle juste d'une modification. Donc on continue à mettre la pression et on espère que les épandages seront suspendus. Surtout que ce qui arrive souvent, c'est qu'on critique, mais on n'apporte pas de solution. Et là, nous, on leur a apporté des solutions. C'est-à-dire que ces épandages concernaient le maïs, il n'y avait que 10% des maïsiculteurs qui l'ont demandé, donc 90% des professionnels ne le faisaient pas. On s'est posé la question de comment ils faisaient, donc on a mené une enquête, on a rencontré l'INRA, Et il y a des techniques biologiques qui marchent très bien, qui demandent de la main-d'œuvre, c'est ce que nous a répliqué la FNSEA. À ce à quoi on a proposé de venir à 40 apiculteurs faire les parcelles pour faire des tests sur des villes, ils ont refusé. Et ensuite, le problème, c'est la rotation des cultures, c'est-à-dire que le maïs, c'est la céréale qui rapporte le plus avec le blé. Ils investissent dans de l'irrigation, et chaque année, ils veulent refaire du maïs sur du maïs, sur du maïs, sur du maïs. Et on peut utiliser tous les produits qu'on veut, mais les insectes se développant beaucoup plus vite que les plantes, il y a plusieurs générations dans une même année, et donc les insectes ont des résistances qui apparaissent à ces insecticides, et il faut chaque fois en utiliser plus, et des nouveaux, et de plus en plus forts. Voilà. Donc des solutions existent, et c'est là peut-être où on a réussi à emporter l'opinion publique en montrant qu'on n'était pas dans une critique pour la critique, mais qu'on avait des solutions, et que ça marchait ailleurs. Et que peut-être il faudrait regarder s'il n'y avait pas, comment dirais-je, de l'argent de la PAC utilisé pour ces épandages. On n'est pas resté dessous. Parce que... Alors, sur les épandages qu'il y a eu cet été, les premiers et les derniers, puisqu'ils n'ont pas pu faire les autres passages, c'était un micro-granulé. Ce sont des granulés qui sont à peu près de la taille de 3 fois un grain de sable, donc très difficile à voir. Heureusement, pour nous aider, ils avaient mis une couleur rose cette année. Donc, une fois qu'on avait trouvé le premier au bout de... trois quarts d'heure de recherche, on a pu trouver les autres. Et ceux-là, ils n'ont pas d'odeur. Voilà. Mais après, ceux qui sont en pulvérisation liquide ont une odeur. Ouais.
Ça peut arriver, j'avais observé, parfois, de sentir dans l'air quelque chose de bizarre.
Oui. Parce que là, moi, je vous parle des épandages aériens par hélicoptère, qui concernent le maïs, la vigne et le riz, et la banane en outre-mer. Mais... avec du chlordécone, qui est interdit partout, sauf on laisse en outre-mer, c'est pas grave. Mais après, les agriculteurs font des épandages aussi avec les tracteurs. Et là, le vent, on compte qu'il n'y a que 25% qui touchent la cible, la plante. Donc il y a 75% qui partent dans l'air autour. Et il y a une odeur très forte. Et là, il vaut mieux fermer les fenêtres et pas le respirer. Je vais répéter la question.
Sur des abeilles donc génétiquement modifiées, résistantes aux pesticides, ce qui serait l'arme de la pétrochimiste pour continuer à légitimer les pesticides et puis dire que finalement les abeilles ne mourront plus, on peut continuer à.
Alors la question de monsieur, c'est est-ce que il y a des recherches pour faire des abeilles OGM et est-ce que ça va marcher? Voilà. Alors. Sur ce point, il y a effectivement des tentatives qui sont mises en avant, puisqu'il y a une université aux États-Unis qui a travaillé sur une abeille électronique de la taille d'une pièce de 2 euros, qui pourrait remplacer les Chinois dans les régions où il n'y a plus de pollinisation. Pour l'instant, c'est utopique, ça ne vole pas bien, et puis ça ne pollinise pas. Donc on en est très loin. Après, il est vrai qu'on a eu... des bruits et confirmations que Monsanto travaille sur des abeilles génétiquement modifiées qui pourraient résister aux produits phytosanitaires et continuer à polliniser. Alors pour l'instant, on n'y est pas. Il n'y a pas de résultats avancés malgré ce qu'on peut attendre. Donc il faut encore attendre quelques années et on espère que ça ne va pas se passer. En tout cas, là, pour l'instant, on est unanime au niveau planétaire. Les apiculteurs, on ne veut pas d'OGM et on ne veut pas d'abeilles OGM. Donc ça, là-dessus, on est bien clair. Et ils auront du mal à trouver, de toute façon, des apiculteurs qui en veulent. Et puis, on va pas laisser passer des abeilles OGM.
J'ai des sources sur une projection à
2-3
ans où on trouve ces abeilles OGM modifiées. Et après, sur le Parkinson dont je parlais, c'est un peu mon métier, mais... finalement tout arrive à l'homme, hein. C'est que c'est Parkinson qu'on voit chez les abeilles. Depuis moins d'un an, le Parkinson a été reconnu comme maladie professionnelle par la sécurité sociale chez les agriculteurs.
Oui, c'est ce que...
Le problème, il est...
C'est...
Plus chez
Ouais, c'est Bruno Le Maire, notre ancien ministre de l'Agriculture, qui, le dernier jour de son départ, a signé un arrêté qui reconnaît effectivement la maladie de Parkinson comme étant professionnelle, mais chez les agriculteurs, et directement liée à l'usage des pesticides. Alors pourquoi que chez les agriculteurs ? C'est un premier pas, et effectivement, on n'y pense pas assez souvent, mais on vous parle des abeilles qui meurent, mais c'est l'ensemble des insectes pollinisateurs qui sont touchés, les bourdons, les papillons, c'est pareil, tout le monde est touché, et tout ce qui se passe aux abeilles, c'est ce qui va arriver, ou ce qui arrive, de manière plus diffuse peut-être, mais chez l'homme. Alors, on est sur des molécules qui attaquent le système nerveux, et là, les connexions sont les mêmes, partout chez l'homme ou chez les insectes, et donc c'est vraiment un gros problème de santé publique qu'on a du mal à faire reconnaître, puisque on a eu ici en 2002, lors de la grande intoxication des abeilles par le régent, des apiculteurs en Haute-Garonne qui ont été victimes de problèmes pulmonaires, qui ont eu énormément de mal à le faire reconnaître. Une fois que ça a été attesté par des médecins, ça a été des pièces qui ont été versées au dossier d'instruction sur le régent, qui a été mené à Saint-Gaudens par un juge d'instruction. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le gaucho et pour le régent, ces deux gros pesticides tueurs d'abeilles, il y a eu des juges d'instruction de nommer. Et les deux juges d'instruction, un mois avant la clôture du dossier, sont partis, soi-disant, à leur demande, et c'est dans le livre de François Veillerette qu'on citait tout à l'heure, à Papeete et à Mayotte. Donc, les deux dossiers qui étaient à un mois de la clôture sont aujourd'hui dans les oubliettes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans une peur de réouverture du dossier, Bayer a employé un cabinet d'avocats qui est à Saint-Gaudens et qui a un bureau dans le tribunal et qui bosse sur le dossier du gaucho et l'autre du régent depuis plus d'un an. Donc ils rebossent sur ces dossiers qui font plus de 500 000 pages. On est sur des dossiers énormes. Et c'est un des plus gros scandales, effectivement, pour l'État français, puisque derrière ce problème du gaucho et du régent, eh bien, il y a tous les autres pesticides, il y a les problèmes de santé humaine chez les agriculteurs et chez les citoyens, et puis ce qu'il y a juste derrière, c'est les OGM, puisque les OGM sont quand même des plantes qui produisent elles-mêmes l'insecticide et qui vont toucher tous les insectes. Donc c'est un dossier très sensible, et les lobbies, les gros groupes de l'agrochimie travaillent dessus au cas où un jour il y aurait un juge d'instruction qui rouvre le dossier. Alors, ce sera la dernière question. Après, il y a un autre film. Effectivement, il y a des pays comme la Slovénie qui ont interdit ces pesticides, les néonicotinoïdes. Petit pays, donc pour l'instant, pas beaucoup de poids. L'Italie a interdit ces pesticides sur les zones de maïs et a vu la mortalité des ruches passer de 37% à 15%. Donc, on a bien la preuve que ces pesticides sont directement liés à ça. Et en Allemagne, bien qu'il y ait le siège social de Bayer, la quasi-totalité des insecticides néonicotinoïdes sont interdits. Voilà. Merci. Et merci à tous les abeilles.